Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars. Dans ce cadre, on reçoit deux membres de la liste Une île, une équipe. Bruno Nourry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la tête de liste et vous êtes accompagné d'une de vos colistières, Carole Charreau, bonjour.
Bonjour.
Bruno Nourry, deux mandats comme maire à Lisle-Dieu. Avez-vous hésité à vous présenter pour cette élection ?
Oui, j'ai beaucoup hésité parce que un mandat de maire, c'est quelque chose de très prenant. Les gens s'en rendent pas toujours compte, mais en fait, on est sur le pont H24. On y est aussi tous les week-ends, on y est tous les soirs. Bref, on y est tout le temps. Donc, c'est assez pesant, c'est beaucoup de sujets à traiter, et donc ça méritait un temps de réflexion. Et puis, bon, il y avait beaucoup de projets en cours, il me tenait à cœur de les poursuivre, donc j'ai pris la décision de repartir avec l'équipe.
Quelle a été votre réaction à la constitution de la liste Mieux Ensemble, avec comme tête de liste Patrice Bernard, déjà adjoint en charge de l'environnement à la mairie de Lisle-Dieu ?
J'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut, donc moi j'ai pas de
commentaire. Ça m'a été une surprise pour vous ?
Si, c'est toujours une surprise. Après, voilà, on travaillait ensemble et Patrice a décidé de mener sa propre liste, de faire son chemin de son côté. Donc, moi, je respecte cette décision.
Comment définiriez-vous la commune de Lisle-Dieu, Bruno ?
Ben, la commune de Lisle-Dieu, elle est très particulière. Déjà, une commune de 5000 habitants, c'est sur les 36 000 communes de France, c'est la 2000e commune de France, donc c'est plutôt une grosse commune. Alors, on n'est pas en intercommunalité, donc on cumule en fait l'ensemble des fonctions dévolues aux intercommunalités. Et puis après, on a tout un tas d'équipements qui sont particuliers à Lisle, que d'autres n'ont pas, comme des pots de carburant, des chambres funéraires, un aérodrome. Donc c'est un territoire assez complexe à gérer, mais qui est pour le coup très intéressant, et donc cette commune particulière, on a envie de la porter et puis d'avoir une vision d'avenir pour Lisle-Dieu.
Même question pour Carole Charreau.
J'ai été un petit peu surprise, oui, sur le moment maintenant, et par rapport à Patrice. Hein. Bon, voilà, il fait ce qu'il veut. Hein. Par rapport à la définition de la commune, c'était ça la question au départ ?
Tout à fait.
Aussi. C'est vrai que c'est assez particulier, hein, la commune de Lisle-Dieu. Quand on va au département, on est toujours mis en avant, en fait. Quand on parle de Lisle-Dieu, en général, on a un sourire. Moi, c'est ce que je retiens aussi. Donc, il faut en profiter. Il faut, voilà, on est particulier. D'ailleurs, on a eu le label de Vendée Double Cœur par rapport
au bénévolat.
Bon, voilà, par rapport au bénévolat, ça prouve aussi notre participation par rapport aux associations. Mais c'est aussi pour dire, on fait partie de la Vendée et puis on a cette particularité d'avoir 130 associations sur l'île. Donc, je crois aussi que c'est parce qu'on est une île, on est très solidaire. Voilà, quand il fait froid dehors, on se réunit et puis c'est bien. Voilà.
Le département de la Vendée, quel regard porte-t-il sur Lisle-Dieu ?
Il y a un regard là aussi particulier, puisque la commune de Lisle-Dieu, c'est un seul canton. Donc ça, on avait réussi à obtenir le maintien de ce canton. On est dorénavant le dernier canton insulaire, et à l'époque, c'est l'ensemble des élus départementaux qui avaient voté pour le maintien du canton de Lisle-Dieu. Donc il y a cette attention. Il y a cette attention au travers la liaison maritime, au travers les espaces naturels, au travers la gestion portuaire. Donc voilà, le département a cet œil particulier, et aussi en termes de financement, puisque sur le contrat Vendée Territoire, il a été abondé du fait des surcoûts liés à l'insularité. Donc bon, on y travaille, hein, de toujours faire reconnaître ses spécificités et qu'elles soient bien prises en compte.
Spécificité par rapport au conseil départemental de la Vendée et à la région.
Oui, et à la région.
Et à l'Europe aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'au niveau de la région, là aussi, on a un contrat qui est abondé. La région nous accompagne dans plein de domaines.
Notamment la liaison maritime.
Notamment la liaison maritime, oui. La liaison, il y portait aussi. Et puis, au niveau de l'État, bon, on avait obtenu que les îles puissent avoir une dotation complémentaire, dotation insulaire, qui s'élève à un peu plus d'1 million d'euros par an pour les lieux. Donc ça, c'est un bel héritage pour les lieux, parce que moi, je m'étais battu bec et ongle pour l'avoir, hein, c'est 10 ans de travail. Mais cette dotation permet d'envisager plus sereinement les choses. Et après, au niveau européen, on travaille avec le ESIN, qui est l'association des petites îles européennes, pour que les îles soient prises en compte dans les politiques européennes. Et parce qu'on le sait bien, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de l'Europe, parfois les réglementations sont difficilement applicables sur les îles. Et donc, il faut qu'on puisse faire entendre notre voix pour que ces spécificités soient prises en compte.
Pour entrer dans le programme, en 2016, le taux de chômage était de 14% sur l'île-Dieu contre 11% pour la moyenne française, source INSEE. Quels sont vos projets pour l'emploi et l'économie ?
Oui, alors ce sont les chiffres INSEE, hein, c'est pas le chiffre de Pôle emploi. Il y a des petites différences sur la manière de comptabiliser. Maintenant, l'île-Dieu a une spécificité, c'est sa saisonnalité, hein. Donc on peut avoir quasi le plein emploi l'été et puis moins d'emploi l'hiver. Donc il faut arriver à avoir des saisons plus longues et puis à développer l'emploi à l'année. Alors on le fait par différents biais, parce qu'on a une plateforme d'initiative locale qui permet de faire des prêts d'honneur aux créateurs d'entreprises. Au cours de ce mandat, ce sont 44 entreprises, créations d'entreprises qui ont aidé pour un peu plus de 300 000 euros de prêts. On a aussi l'extension de la zone artisanale, puisque beaucoup d'entreprises veulent s'y implanter, et donc on fait cet aménagement. Alors aujourd'hui, les marchés sont lancés, donc ça va pouvoir être réalisé. Et on a aussi une politique concernant la réhabilitation des commerces, hein, puisqu'on a un système d'aide en partenariat avec la région sur de pouvoir réinvestir dans les commerces, améliorer l'accueil. Alors on souhaite, nous, au cours de ce mandat aussi, réhabiliter tout l'arrière-port, hein, avoir des, par exemple, les revêtements de sol qui soient un peu plus homogènes, hein, parce qu'on a différentes choses, de réhabiliter les ruelles, d'aider au ravalement des façades et faire que cet arrière-port soit attrayant, attractif, pas seulement pour nos visiteurs, mais aussi pour les habitants permanents, qu'on prenne plaisir à se balader dans l'arrière-port. Je crois que ça, c'est important. Enfin, on a un projet aussi concernant l'ancienne usine de l'Aspect, parce que les commerces qui sont un peu plus loin dans un bâtiment communal, alors, ce bâtiment a quelques soucis, chacun l'aura constaté.
Vous allez le détruire, ce bâtiment ?
Comment mais ça va se passer ? En fait, aujourd'hui, la décision n'est pas prise, mais la toiture est en fibro-amiante, avec une ondulation de tôle qui ne se fait plus. Donc aller faire un raccord de toiture sur du fibro-amiante avec une ondulation de tôle qui ne se fait plus, la solution, elle sera de refaire complètement la toiture. Si on refait complètement la toiture, il faudra refaire la charpente. On n'aura plus les mêmes poids, donc les descentes de charge sur les murs seront plus les mêmes. Donc très vite, je pense qu'on arrivera, enfin les experts arriveront à la conclusion que le bâtiment est condamné. Alors, on le savait avant ces désordres, on le savait que ce bâtiment, voilà, vieillissait mal et qu'il fallait envisager d'autres solutions. Donc là, j'ai envie de dire, c'est l'occasion d'avoir ce projet sur l'aspect. Alors, on pouvait pas avoir de projet sur l'aspect avant, parce qu'il y a la fête des fleurs qui vient tous les 2 ans faire les chars, et ça, c'est important de pouvoir continuer cette fête qui est emblématique de l'île-Dieu.
C'est alors, le tourisme hors saison.
C'est le tourisme hors saison, ça en fait partie, oui. Donc on a acté la construction d'un hangar pour les bus en zone artisanale, près du centre technique municipal, et qui permettra tous les 2 ans d'accueillir les chars de la fête des fleurs. Donc dorénavant, on peut avoir un projet sur cette ancienne usine. Le projet consistera donc à mettre des commerces en rez-de-chaussée. Il faudra aller probablement sur l'espace de l'encan aussi, plutôt des espaces multifonctions à l'étage, probablement une grande salle, des petites salles, pouvoir faire du coworking aussi pour les pour les entreprises. Alors, on y relogera les commerces précités, mais aussi de nouveau. Donc ça, ça reste à construire. Et ensuite, pour le financement, en fait, on créera un budget annexe. Ce sera le budget annexe qui portera l'investissement. La commune, bien sûr, avec son budget général, ira participer parce que les espaces multifonctions, c'est bien la commune de les payer. Mais les espaces d'entreprise, les loyers serviront à financer sur l'emprunt, sur du très long terme, probablement au-delà de 30 ans. Mais ça permet, en fait, de faire le projet tout de suite sans impacter le budget principal de la commune. Enfin, si vous êtes... toujours sur sur l'économie, on a aussi l'agriculture. On a eu un vaste projet de reconquête agricole, hein, avec le projet Terre Fertile, qui consistait à d'une part les biens sans maître, de pouvoir les récupérer, d'avoir des discussions avec les propriétaires pour accueillir des agriculteurs, faire du défrichement. Alors c'est pas fini, on va continuer et puis ça porte ses fruits puisqu'on a de nouvelles installations agricoles.
L'agriculture, il y a aussi la pêche.
Oui, il y a aussi la pêche. Alors la commune n'intervient pas directement sur les entreprises du secteur pêche, hein, parce que c'est pas sa fonction. Néanmoins, on a un accompagnement au moins politique sur la défense des intérêts de la pêche, ça c'est important. Et puis aussi, ça se traduit par le soutien qu'on donne à l'école de pêche, ça aussi c'est important qu'elle puisse se maintenir. Alors, ils ont projeté un regroupement avec les SAM, mais il y aura toujours cette école de pêche à l'île-dieu, et ça c'est important.
Qui dit emploi à l'année ou saisonnier dit logement. Comment augmenter le parc de logements sur l'île-Dieu ?
Alors, on a plusieurs actions, hein. La première a été de constituer des réserves foncières, ce qui s'est fait depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années. Donc, on a...
Réserves foncières, pour être clair, c'est des terrains.
Des terrains qui ont été achetés par la commune. Ça permet de réaliser derrière des lotissements. Donc là, il y en a deux qui sont en cours d'élaboration. Hein. Un à La Tonnelle, en fait, c'est entre le carrefour de Kerpissot et puis la zone artisanale, sur une première tranche de 7000 m². Et puis un autre à la Chironnière. Alors c'est un terrain qui avait été acheté à l'époque avec la municipalité Maurice Coustillière, mais on pouvait pas le réaliser parce que à l'époque il y avait pas le tout à l'égout. Donc dorénavant le tout à l'égout est passé et donc on peut réaliser. Alors on a d'autres terrains aussi qui vont être réalisés. On a encore les zones d'aménagement concertées comme Kerpissot. Il y en a une au Bossy qu'on va réaliser. Sur ces lotissements que j'évoquais, donc l'idée c'est de faire du locatif à l'année, de faire de l'accession à la propriété, de la location accession, et puis on a aussi d'autres projets. Par exemple, il y a un projet à Saint-Sauveur sur l'impasse des Rieux, donc qui est bien avancé, qui va pouvoir sortir de terre, mais il a été un petit peu long parce que on voulait à Saint-Sauveur, parce que comme c'est dans le cœur du bourg, continuer cette trame urbaine du bourg avec des ruelles, etc. Donc il y a eu des négociations avec différents propriétaires pour permettre de réaliser ce projet et qu'il soit bien inscrit dans la trame urbaine de Saint-Sauveur.
Ces différents projets vont sortir de terre quand ? Est-ce que vous avez déjà une date ?
Sur les Rieux, il est prévu que le permis de construire soit déposé rapidement, donc vraisemblablement un début de travaux à l'automne. Concernant les deux lotissements que j'évoquais tout à l'heure, il va y avoir des permis d'aménager, on les aura avant l'été, après il faut réaliser les réseaux, donc au printemps de l'année prochaine, ces projets seront réalisés et on pourra commencer la commercialisation ou la construction de logements locatifs.
Plus de 22% de la population est âgée de 60 à 74 ans et plus de 11% plus de 75 ans. Quelles sont vos propositions pour cette population dans le cadre de la santé et ou du maintien à domicile, Carole ?
Oui, en fait, oui, comme la
population importante pour l'île.
Oui, voilà, hein, c'est ça. Donc, on va bien sûr regrouper les deux EHPAD. Hein, c'est un vieux projet hein, qui existe depuis longtemps, oui. Ça, c'est le premier point. Il y aura donc des places d'hébergement permanent. Il y aura des places d'hébergement temporaire. Et puis aussi des places d'accueil de jour hein, pour les personnes désorientées. Ça, c'est vraiment un gros projet qui date de 2008, je crois. Ça va sortir de terre, normalement, dans les 5 ans, apparemment. Il y a aussi un autre projet qui est dans le mandat qui va venir, je pense, au niveau de la résidence autonomie. C'est un parcours seigneurial. C'est pour les personnes un petit peu plus autonomes qui permettra d'avoir des logements juste à côté des EHPAD. Donc, de bénéficier, par exemple, de la surveillance de nuit. Ça, et puis, de bénéficier aussi des animations qui ont lieu dans les EHPAD. Ça, c'est le deuxième projet. Autrement, il y a tout ce qui est maintien à domicile. Alors ça, le maintien à domicile, c'est vraiment une fiche action qui a été définie dans le contrat local de santé, qui a été signé en octobre dernier. C'est la trame vraiment qu'il faut... Enfin, c'est une action vraiment primordiale.
Les gens aiment bien rester à domicile.
Voilà, c'est vraiment la priorité aujourd'hui, même au niveau du département. On le voit bien, les gens veulent rester chez eux. Et c'est tout à fait normal, on le conçoit très bien. Donc on va accentuer notre aide au niveau de la DMR. Et puis aussi au niveau du portage des repas. Là, on est passé en liaison froide. On est passé à 25 repas. Pourquoi pas l'améliorer aussi au niveau des week-ends, c'est-à-dire le mettre à disposition aussi des repas le samedi, voire le dimanche, peut-être augmenter aussi la capacité des repas, parce que là, à 25, il y a quand même une liste d'attente. Donc,
une liste d'attente de combien de personnes ?
Ça, je ne peux pas vous dire.
Bruno, vous savez,
je ne sais pas non plus.
Non plus, ouais. Donc, de toute façon, il y a des besoins, on le sait, hein, puis ça va aller croissant. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ce que ça soit augmenté, ce portage de repas. Voilà, pour être rapide au niveau des personnes âgées, ce qu'on va faire sur l'île, en prendre soin, je crois que c'est très important. Il y a aussi l'association L'Entraide qui prend soin des personnes âgées qui sont à domicile en faisant des rondes le jeudi, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les personnes âgées chez eux, ils vont les emmener soit voir les copains tout simplement, les emmener faire les courses, les emmener aussi au cabinet médical. Tout ça, c'est ensemble qu'on va construire du maintien à domicile, voilà, avec tout le monde, avec les associations, avec les autres citoyens, avec des bénévoles.
Après les personnes âgées, les jeunes, les 0-14 ans représentent plus de 13% de la population de l'île. Quel est votre programme envers ce public ?
Je crois que le premier projet, c'est surtout le pôle de solidarité. Le pôle de solidarité, ça va être un pôle qui va regrouper le multi-accueil, donc la halte garderie, la crèche, hein, parce qu'en fait, c'est un bâtiment vieillissant. On devait le remettre aux normes. Ça coûte 700 000 euros, donc c'était pas la peine, c'était pas envisageable. Donc, on va plutôt le vendre et puis garder les sous pour financer ce pôle de solidarité. Mais dans ce pôle, il n'y aura pas que la halte garderie, il y aura aussi la MDSF. La MDSF, c'est la maison départementale des solidarités et de la famille. C'est tout ce qui est PMI, protection maternelle infantile. Donc aussi les assistantes sociales qui viennent le mardi. Et plus si besoin, donc les péricultrices, aussi dans ce pôle, il y aura aussi le CCAS, hein, le Centre Communal d'Action Sociale, la DMR, la Banque Alimentaire, tout ce pôle sera juste au carrefour, enfin en face du collège rue Clémenceau. Donc les terrains ont été, ça y est, c'est la commune qui en a la propriété. C'est un projet bien avancé, mais maintenant il faut le construire. Hein. Donc il y a du boulot encore.
Ce projet, si vous êtes élu, va sortir de terre à partir de quand? Est-ce qu'on a déjà une date?
Mais en fait, là,
c'est vraiment un projet du
programme. Non, c'est un peu plus que ça, parce que le programme est réalisé. Hein, on s'est fait accompagner avec un bureau d'études. Donc là, maintenant, il faut constituer le jury de concours pour retenir les architectes. Donc on est en ordre de bataille. Avec, après, entre le temps du jury de concours, de la consultation des entreprises et de la construction sera voilà sur près de 3 ans. Hein. C'est assez long, mais c'est déjà d'ores et déjà dans les tuyaux.
Ce pôle 2024.
À peu près. Oui, plutôt 2023, ouais.
Pour les jeunes, il y a le sport aussi qui est important, Carole.
Oui.
Et Bruno.
Ouais. Ouais, bien sûr, le sport c'est important parce que voilà, ça fait partie aussi de la vie locale. On parlait tout à l'heure des associations. Les associations sportives sont très dynamiques, hein. Il y a de très très bons résultats. Maintenant, sur le sport, on a fait beaucoup de choses sur l'isolation des salles, sur par exemple la réfection du terrain de foot. On a fait des WC en haut du stade. On a refait un revêtement de sol sur la salle 1, donc se posera la question de la salle 2, et question d'un tennis couvert aussi sur le tennis du Marais Salé. Mais on a un certain nombre d'équipements à implanter sur le complexe sportif. C'est par exemple la piste de BMX, c'est aussi le fitness, qui a plus de salle aujourd'hui.
Une piscine peut-être ?
Ben plutôt un bassin d'apprentissage, hein, parce que une piscine c'est un coût assez faramineux, mais au moins un bassin d'apprentissage pour permettre aux scolaires d'apprendre la natation et puis pouvoir faire un peu de remise en forme aussi pour les personnes. Et donc il y a un certain nombre d'équipements qui sont à prévoir, et puis peut-être dans le futur, pas forcément sur ce mandat-là, mais dans le futur avoir peut-être une troisième salle, parce que les deux salles sont bien occupées. Donc ça, on souhaite nous fédérer l'ensemble des associations pour créer un office du sport et de pouvoir discuter de ces aménagements, qu'on n'implante pas au coup par coup les choses, mais que ça s'inscrive bien dans une vision globale. Après, on a aussi, concernant les trainbots, donc les 9-12, hein, sur la construction des trainbots sur le site du pôle culturel. Alors, pourquoi
on va en parler.
Ah ben d'accord.
Non, mais allez-y, Bruno.
D'accord. Oui, pourquoi ce pôle culturel ? Parce que je crois qu'on a tous notre fierté d'être de l'île-Dieu. On sait qu'on est un monde à part, mais ça, ce qui forge cette identité, c'est bien notre patrimoine historique, notre patrimoine archéologique, notre patrimoine maritime, notre patrimoine culturel, notre patrimoine humain, parce que on a l'oralité, on a le patrimoine culinaire, ce patrimoine chanté, et c'est bien ça qui fait toute notre identité. Donc aujourd'hui, le service patrimoine est au fond du pôle économique, donc c'était de remettre ce service patrimoine un peu à l'honneur dans des locaux qui soient adaptés, où ils puissent faire leurs ateliers archéologiques, qui puissent intéresser les enfants, les 9-12 ans. On fait beaucoup de recueils de mémoires auprès des anciens, donc la proximité de l'EHPAD permet de faire ce recueil de mémoires. Alors, il y a des travaux qui ont été faits aussi en lien avec, par exemple, Jean-François Henri sur la guerre de 14, où voilà, on faisait des restitutions au public, alors des conférences, donc ce sera bien de le faire sur le lieu où il y a le service patrimoine, pouvoir un peu avoir aussi un espace d'exposition, parce que voilà, tout... c'est le conserver le patrimoine, c'est une chose, le restituer au public, c'est très important pour qu'on puisse se l'approprier, et surtout que les jeunes puissent se l'approprier, qu'ils puissent s'approprier nos titres d'identité, ce qui fait qu'on est de l'île-Dieu. Et donc autour de ce projet, il est prévu aussi de ramener les archives municipales. Alors aujourd'hui, elles sont en haut de dans la salle collinée, au-dessus de l'ancienne caserne des pompiers. Et ces archives communales, outre les archives proprement administrative, on a énormément de courriers, on a énormément d'études, de publications, de différents documents, un peu d'archives privées, et ça c'est important de pouvoir les restituer au public, parce qu'aujourd'hui elles sont dans cette salle, donc j'ai envie de dire pas très accessibles, et là de les mettre nos archives au cœur de notre patrimoine, au cœur de notre histoire, je crois que c'est important de pouvoir le restituer au public. Donc sur cet ensemble, on y accueillera aussi la bibliothèque, parce que la bibliothèque actuellement est dans l'école du Ponant. L'école du Ponant a absolument besoin de cette salle, hein, parce que on a encore agrandi l'école, mais là, j'ai envie de dire, elle est pleine comme un œuf, et puis il faut qu'on trouve un autre espace, et donc on y adjoint donc la bibliothèque à cet ensemble. et aussi l'espace régional numérique, ce que fait Rosane Bernard, au pôle économique, on va le ramener ici. Alors c'est pour tout ce qui est appropriation de l'outil numérique des uns et des autres, mais aussi vis-à-vis de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes font beaucoup de, par exemple, de vidéos, utilisent les outils numériques, et de pouvoir avoir un espace dédié, ça va leur permettre de conforter leur pratique. Demain, peut-être qu'on y mettra aussi une imprimante 3D, par exemple. Et ça va être en lien aussi avec le cinéma qui est à côté. Donc, ça permet d'être complètement complémentaire, pour le coup. Et donc, c'est cet ensemble qu'on veut, que nos jeunes puissent s'approprier notre culture, notre patrimoine, en lien avec les anciens. Bref, avoir vraiment un lieu qui corresponde à notre identité. Alors, entendu la critique, où on dit ça va coûter 4 millions. Oui, mais on a des subventions, hein, ça fait le projet n'est pas tombé du ciel comme ça, et si on y va, c'est qu'on sait qu'on est capable de le réaliser, parce que en fait le coût net à la commune, une fois qu'on a mis les subventions, c'est 1,5 million. 1,5 million, c'est peu ou prou le projet du front de port, hein, donc c'est absorbable. Et surtout, si d'aventure on ne le faisait pas, qu'est-ce qu'on fait de notre service patrimoine? On le met où? On le met où? On continue de le cacher, de pas avoir de salle d'exposition, de pas restituer les choses au public. On met où à terme nos archives municipales? Ah ben, on pourrait les mettre au centre technique municipal. Alors on va cacher nos archives, on va pas les restituer au public. On fait quoi de la bibliothèque et l'école qui demande à corps et à cri qu'on puisse déménager la bibliothèque? On fait quoi des trainbots? Les trainbots, si on avait réhabilité les bâtiments du petit Chiron, refaire la toiture, les ouvertures, le carrelage, il y en avait pour 700 000 euros. Donc là, pour 1,5 million, on règle l'ensemble de ces questions. On a un espace cohérent où que chacun va pouvoir s'approprier. Donc ça, c'est aussi une vision d'avenir, une vision pour notre jeunesse, qu'on continue d'être fier de ce qu'on est, d'être fier d'être de Lisieux.
Les personnes vont aller se garer où pour ce centre culturel?
Alors, on a le parking de l'église. Alors, effectivement, on aurait pu se mettre complètement dehors de la ville.
Si, non,
non, mais on aurait pu se mettre complètement dehors de la ville. On a choisi de se mettre, comme j'expliquais, près du cinéma et près de l'EHPAD, et de ramener nos jeunes sur cet espace, hein, pour avoir, c'est ça, du multigénérationnel. Alors, on a le parking de l'église. Il y a un projet de réaménagement de ce parking. Alors, probablement qu'il faudra le gérer un peu différemment pour permettre aux gens de pas trouver de difficultés de stationnement. Mais vous savez, autrefois, il y avait l'école et ça fonctionnait aussi.
Carole.
Oui, je voulais juste abonder par rapport au pôle culturel. Par exemple, Odysseyeux, c'est un programme scientifique. Ils ont fait une maquette 3D. Eh ben, on sait pas où la mettre. Donc là, elle est dans un collège, au collège des Sicardières. C'est un des trucs super importants. Elle a même été jusqu'à Nantes
au salon XXL.
Voilà, au salon XXL. Et on n'est même pas capable, nous, d'avoir une salle correcte pour l'exposer. C'est une des raisons, et il y en a plein d'autres, qu'il faut avoir des salles d'exposition adéquates.
Vous êtes pas simplement énervé sur ce sujet de centre culturel.
Parce que, par exemple, quand on a fait tout ce travail de rétrospective avec Jean-François Henry sur la guerre de 14, quand on fait les conférences au casino, mais on pourrait dorénavant les faire sur cet espace et en lien avec l'espace d'exposition. Donc, d'être complémentaire, encore une fois, parce que sinon on fait l'exposition, les gens veulent en savoir un peu plus, ah ben non, faut aller à un autre endroit pour trouver l'exposition, et l'autre endroit aujourd'hui on l'a pas. Mais c'est aussi, par exemple, les archives de Maurice Essol. Maurice Essol nous donne les archives.
Bruno, le temps file.
Oui. À une condition, oui, je fais vite. À une condition, c'est qu'on puisse les restituer au public. Parce que c'est, en donnant ces archives à la commune, il les donne à tout le monde. Donc, il faut pouvoir les restituer. Et, Maurice Essal n'a pas envie que ces archives finissent dans le fond du placard. Et il a parfaitement raison. Donc, ce projet, il est pas pharaonique, hein. Faut arrêter avec ça. Il est absorbable. C'est, en coût net, ça coûte pas plus cher que de refaire la mairie. Et au moins, on arrête de bricoler avec notre patrimoine et on rend notre fierté à l'ensemble des îlets.
Autre sujet, quelles sont selon vous les priorités afin d'aménager le territoire et rendre le cadre de vie plus agréable et plus fonctionnel ?
Alors, il y a tout un tas de choses, hein. On a parlé des différents services, les services de la mairie. On refait la mairie, on refait le centre technique municipal, on fait ce pôle solidarité et ce pôle culturel, donc qui vont permettre enfin d'avoir des services cohérents et pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. Mais parallèlement, on a d'autres projets. Par exemple, on prévoit l'enfouissement des cuves de carburant. Hein, donc ça, c'est un projet important parce que il va permettre de baisser le coût de distribution des carburants. Donc ça, c'est important. Et puis surtout visuellement.
Entre 8 et 10 centimes.
Ouais, c'est ça à peu près. On va restituer aussi à peu près 1500 mètres carrés sur la zone portuaire qu'on a besoin. Et on aura plus ces verrues aériennes. Et ça, il faut le faire maintenant. C'est pas dans 10 ans qu'il faut le faire. Ce sera trop tard et on vivra pendant 50 ans avec ces cuves. Donc il faut le faire maintenant pendant que c'est encore finançable, qu'on a une visibilité encore sur 20 ans. Après, on a différentes choses, par exemple sur l'assainissement, où on a fait les bassins de tampons pour la station d'épuration, pour tamponner, pour éviter d'envoyer à la mer, en fait, quand la station est arrêtée. Et sur la station, on a fait une mise aux normes phosphore. Maintenant, on va s'attaquer au séchage des boues, parce que le séchage solaire ne fonctionne pas. On envoie des boues humides sur le continent qui reviennent parce qu'on n'arrive pas à décolmater les cuves, etc. Et surtout, bah ça pue dans le quartier, quoi. Et donc pour les gens, c'est vraiment de grosses nuisances. Donc l'idée, c'est d'avoir un système qui sèche les boues au fil de l'eau, hein, donc au quotidien. Et pour ça, on va utiliser un gazéifieur. Donc c'est de pouvoir utiliser nos déchets de bois. Ça va les transformer en gaz et ce gaz va alimenter un moteur de voiture qui, d'une part, générera 50% d'électricité de la station, qui est le plus gros consommateur électrique de l'île, et d'autre part, permettra avec la chaleur de sécher les boues. Je n'ai pas fini. Il y a aussi les questions de voirie. Non, mais on va faire vite, t'inquiète. Sur la voirie, depuis 2014, on utilise maintenant des enrobés à chaud. C'est une technique que j'avais vue à Belle-Île. Donc on les ramène chaud du continent. Et je crois qu'aujourd'hui, ça offre quand même une meilleure tenue de route. Alors on a aussi des questions d'aménagement de parking. Hein, en face la station-service, parking de l'église. Et puis après, on va continuer sur nos réseaux. Il y a par exemple l'arrivée de la fibre optique aussi qui va être importante.
Quel regard portez-vous sur l'écologie et la transition énergétique ?
Mais ce regard, en fait, on a beaucoup d'actions qui, prises individuellement, peuvent présenter pas forcément de la cohérence, mais en fait, il y a cette cohérence autour du développement durable. Et donc, on a des actions sur la gestion des déchets, sur l'économie circulaire, sur nos déplacements, sur l'isolation des logements, avec une opération programmée de l'amélioration de l'habitat, hein, qui permet d'avoir des aides pour les particuliers pour la rénovation thermique de leur logement. On a des actions sur la reconquête agricole, mais aussi sur la gestion du trait de côte. Alors, on a évoqué cette question-là avec Carole.
Odysseyeux.
Odysseyeux, notamment. Et puis, sur la préservation de nos espaces naturels. Donc c'est multiple. Alors tout ça s'inscrit dans un plan qui est en définition avec l'ADEME, qui va nous cofinancer avec un certain nombre d'actions. Donc on va les porter. Alors après, on a aussi des expérimentations qui sont en cours, par exemple sur le quartier de Kerpissot, où on a de l'autoconsommation collective. On a 5 producteurs qui produisent avec leurs panneaux solaires et tout ce qui n'est pas autoconsommé, ils vont le revendre à leurs voisins. Ils sont une vingtaine de consommateurs. Et donc, c'est la première expérimentation en France parce qu'avant, vous revendiez sur le réseau, mais vous ne saviez pas où ça allait. Et maintenant, on vous permet de revendre à son voisin. Donc, aujourd'hui, ça fait une petite communauté de l'énergie. À terme, j'espère que cette communauté de l'énergie sera à l'échelle de l'île-lieu.
Écologie enfin, et transition énergétique, il y a aussi la piste cyclable qui rentre en jeu.
Oui, la boucle cyclable qui rentre en jeu. Donc aujourd'hui, les études sont quasi finalisées. Maintenant, on est à la phase d'instruction avec les services de l'État. Cette boucle cyclable est subventionnée à 80%. Donc ça permet à ce que la commune n'en paye pas plus de 250 000 euros pour quand même à peu près 1,3 million de travaux. Donc c'est pas rien.
Début des travaux à partir de quand pour cette piste cyclable ?
Mais les services de l'État ont 8 mois d'instruction, donc vraisemblablement on commencera à l'automne prochain les premières réalisations.
Le tourisme a un impact positif et négatif sur le cadre de vie. Est-ce dans vos projets, si vous êtes élu, d'essayer d'annualiser ce tourisme ? Est-ce que c'est possible ?
Oui, bien sûr, parce que alors tout d'abord, on a fait passer l'Office du tourisme en EPIC, hein, c'est plus une association, donc ça permet de le monter en gamme, aussi d'améliorer l'accueil, hein, l'accueil, le conseil. Ensuite, on sait bien l'été il y a énormément de monde, mais on a besoin que le tourisme s'étale au maximum. Alors de l'annualiser c'est peut-être compliqué, mais au moins hors saison de garantir ou d'améliorer la fréquentation hors saison. Alors plusieurs événements y participent, hein. Il y a le Grand Festin, il y a la Fête des Fleurs, il y a le Trail, et donc ce sont aussi des manifestations sportives qui permettent d'améliorer notre tourisme. Et puis cette course de trail a débouché sur la création d'une station trail sur les lieux, qui est la première. Oui, puis le GR80 aussi, mais la station trail, c'est la première station trail du Grand Ouest de la France, donc c'est innovant, ça permet à ce que des coureurs viennent faire du trail à l'île-lieu, et je trouve que ça correspond bien à l'image aussi qu'on veut donner du territoire, et puis aussi c'est notre nature préservée qu'il faut encore valoriser, parce que c'est ça qui permet aussi de rendre l'île-lieu attractif. Donc on va continuer dans ces directions, sur l'événementiel, sur le sport, sur la nature.
Tout autre chose dans votre programme, il est question de modifier le PLU. Comment et dans quel but ?
Oui, alors un PLU doit vivre avec son territoire. Hein, donc il est normal qu'il évolue avec l'évolution du territoire. Celui-ci a été acté en 2014. On en a pour 2 ou 3 ans, donc on va dire ce PLU, de pouvoir le refaire tous les 10 ans, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, ça va permettre de rediscuter des grandes orientations du territoire, notamment sur l'intégration d'énergies renouvelables, mais aussi sur les espaces agricoles. Et alors à l'arrivée, ce sera pas une révolution sur le zonage, bien sûr, mais il y a des ajustements qui seront nécessaires, et surtout des orientations qui seront à prendre.
La sécurité, c'est un point important aussi pour l'île-lieu, surtout en période estivale.
Oui, parce que
vous avez recruté, par exemple, de nouveaux policiers, des policiers municipaux ou des pompiers.
Oui, alors on a recruté un nouveau policier municipal, d'une part pour couvrir toutes les plages horaires l'été, parce que ça c'est important. Bon, la gendarmerie, enfin l'État nous envoie pas moins de renforts, mais nous les envoie moins longtemps. Donc il faut qu'on arrive à couvrir ces manques, nous. On peut se dire malheureusement, mais toutes les communes littorales sont à la même enseigne. Et donc on a des actions de surveillance. On cofinance aussi des vigiles pour la surveillance du port. Donc on va continuer cette surveillance, cet encadrement, parce que le port, la nuit, c'est bruyant, on peut se sentir en insécurité. Donc on a aussi des actions de prévention. Hein. On avait un camion qui faisait, qui qui venaient à destination des jeunes pour faire de la prévention.
Prévention alcool, drogue et oui. Sexualité.
Oui, c'est ça, c'est ça. Donc ça va être poursuivi. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, ben, les lieux, c'est une affaire de tous, de ce qu'on veut en faire. Et il faut pas que les lieux se transforment en Ibiza. Donc, c'est aussi de la responsabilité de chacun, parents, enfants, les services, etc., les professionnels, d'œuvrer pour que les lieux soient agréables, qu'on puisse faire la fête, mais que ce soit pas de la débauche. Et donc ça, j'en appelle aussi à la vigilance de chacun. Alors on a un conseil de sécurité et de prévention de la délinquance l'été qui regroupe tous les acteurs de la sécurité, qui permet de faire le point, d'ajuster les dispositifs. Mais au-delà de ça, il faut pouvoir mieux encadrer, et donc j'en appelle aussi à la responsabilité de chacun pour faire que notre île continue d'être accueillante.
Installation de caméras, c'est pas au programme ?
Non,
c'est pas une envie ?
Non, c'est pas au programme, parce que il y en a sur le port. Le port est un espace privatif, et donc il y a des outils professionnels, donc ça, il est normal de pouvoir les surveiller par biais de caméras. Après, des caméras, ce serait sur l'espace public. Vous savez, les dégradations, elles ont pas lieu forcément sur le port, elles ont lieu dans les rues de l'arrière-port, elles ont lieu, vous voyez bien, des poubelles renversées, des boîtes aux lettres défoncées, des voitures et pneus crevés. Donc on va pas mettre dans tout l'arrière-port et partout des caméras. Ce qui est important, c'est que d'avoir cette présence policière sur le port, que ce soit de la police municipale, de la gendarmerie ou encore des vigiles, pour montrer qu'il y a de la présence, pour prévenir des actes de vandalisme. La caméra, elle n'empêche pas l'acte. Hein. Alors, ça permet d'identifier quelquefois, mais pas toujours, les auteurs, mais ça n'empêche pas l'acte. Donc, on préfère, nous, avoir cette présence et éviter qu'il y ait les débordements. C'est la politique qu'on poursuit.
Allez-vous, durant ces 6 prochaines années, impliquer les résidents dans les décisions importantes et projets de lieu si vous êtes élu ?
Oui, bien sûr. Alors, on le fait déjà, hein, parce que il y a cette participation citoyenne. Ça a pu être mis, par exemple, sur Terre Fertile. Ça a pu être aussi sur Île en Transition. Il y avait 5 groupes de travail. Ça a réuni plus de 70 citoyens de l'île pour avancer sur des problématiques comme le logement, comme le transport. Et vous voyez, sur le logement, par exemple, le guichet unique au PH s'est constitué, enfin a été créé suite à des préconisations de ces groupes de travail. Donc c'est plutôt réussi, donc on va pouvoir le continuer. On a, par exemple, refait le schéma de développement touristique, mais au goût du jour. Donc, on a impliqué beaucoup les professionnels. Ça a été la même chose avec le contrat local de santé. Mais on souhaite aller plus loin, d'ouvrir nos commissions communales, municipales, aux citoyens. D'avoir cette participation, et ça se fera aussi, par exemple, sur le plan d'aménagement de développement durable du PLU. Je pense que c'est l'affaire de tous, donc on impliquera au maximum les citoyens là-dessus, quoi.
On l'a bien entendu, vous avez pas mal de projets pour ces 6 ans à venir. Comment vont-ils être financés?
Alors, ça dépendait lesquels. Si on prend le pôle solidarité, sera en fait financé pour un peu plus de la moitié par des subventions, mais aussi des cessions immobilières qui appartiennent aujourd'hui au CCAS. Le reste, on aura recours à l'emprunt, et donc ça coûtera à peu près 50 000 euros par an, en sachant qu'on aura des loyers notamment de la MDSF. Donc ça va peut-être tourner autour de 20 à 30 000 euros par an. Donc c'est absorbable sans problème. Si on prend le carburant, même chose, là c'est sur un budget annexe, on aura recours à l'emprunt et on prendra une taxation au litre, comme aujourd'hui sur le passage en dépôt, sauf qu'elle sera moins élevée de 8 à 10 centimes. Si on prend l'aspect, j'ai expliqué tout à l'heure comment on allait le financer, et puis enfin le pôle culturel, là c'est sur les projets, j'ai envie de dire classiques mairie, donc ce sera largement absorbable.
Si vous êtes élu, quelle sera votre première mesure ?
Ma première mesure, elles vont être multiples, mais les premières choses à faire, c'est de remettre l'organisation en place, d'organiser les commissions municipales avec les nouveaux élus. Ça va passer par des délibérations, mais il faut bien cadrer cette organisation pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Et puis on fera une visite avec l'ensemble des élus des services municipaux pour que chacun sache de quoi il parle et puis de se rencontrer. Je crois que c'est important, et surtout on veut mettre plus de transversalité. Alors après, il y a des sujets qui vont démarrer assez vite. Par exemple, l'aspect, je pense qu'on va faire un comité de pilotage très vite. Sur le pôle solidarité, par exemple, il faut assez vite définir le jury de concours dans le conseil d'administration du CCS. Enfin, il y a des choses qui sont déjà en cours qui va falloir réactualiser et remettre en avant.
Carole, oui.
Ouais, juste par rapport aux premières mesures, par rapport aux commissions municipales, il y a aussi des, comme disait Bruno, il y aura des commissions transversales. Et là aussi, bon, bien sûr, ça sera pas, ils seront pas nommés, mais on fera appel aux citoyens lambda ou qui sera intéressé, ou je sais pas moi, une commission environnement sur tel sujet, il y aura peut-être lieu demain, comme on fait un peu aujourd'hui, hein, mais là un petit peu plus étoffé, c'est-à-dire on fera des commissions transversales, par exemple commission pôle culturel, commission pôle de solidarité, commission, enfin voilà.
C'est ça, en fait on veut s'organiser davantage en mode projet.
Les associations, c'est une part importante aussi du tissu de la population. Est-ce que, si vous êtes élu, vous allez continuer à les aider ?
Oui, bien sûr, parce que les associations, c'est aussi ce qui caractérise la vie de l'île-Dieu. Alors, on apporte une aide d'abord logistique, hein, pour les aider, soit sur les transports, soit sur des salles, soit sur de l'organisation de manifestations. L'été, la commune, nous, on n'organise rien pour justement être au service des associations. Donc ça, on va continuer de les accompagner financièrement, mais aussi on va les fédérer. Je parlais tout à l'heure de fédérer les associations sportives autour du complexe sportif. On va fédérer les associations autour de la nature, autour d'un projet de pôle nature et environnement sur le Grand Phare. Fédérer les associations de sport nautique aussi. Et donc, pour avoir, les intégrer aussi dans nos commissions, qu'on ait une vision partagée du développement sur les lieux, du développement social, du développement culturel, du développement sportif, et donc continuer cet accompagnement des associations.
Carole.
Ouais, par rapport à la fédération des associations sportives, par exemple, aussi, ça permettra de créer des événements. Parce que souvent, les associations, elles travaillent dans leur côté, elles font des petits événements, chacun de son côté. Donc là, s'ils font un gros événement, je pense que ça sera plus porteur.
Il reste 30 secondes. Pourquoi voter pour vous ?
Mais disons que nous, on s'est inscrit pleinement dans une continuité de ce qui est fait aujourd'hui. Et donc, comme je disais tout à l'heure, faut pas qu'on retombe dans qu'on refasse des choses, des lieux qui sont amenés à faut qu'on arrête de bricoler, quoi. Donc là on est en ordre de marche, nos projets sont actés, sont financés, et donc il faut y aller, il faut aller de l'avant, il faut avoir cette vision d'avenir pour les lieux.
Merci Bruno Nourry et merci Carole Charot de les listes Une île, une équipe. À très bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.